Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yoga et nous. Je suis Laura Châtelain, journaliste spécialisée en santé et pratiquante de yoga depuis plusieurs années. Dans ce podcast, j'interviewe des profs passionnés qui nous racontent comment le yoga change notre rapport au corps, impacte notre santé ou la façon dont on vit nos émotions. Bref, comment il infuse notre quotidien. Dans les épisodes hors série, j'aime bien faire un pas de côté pour aborder des thématiques un peu moins centrées sur la pratique en elle-même. Avec la guerre en Ukraine et l'exil massif de centaines de milliers de personnes, on a observé un élan de solidarité au cœur de l'actualité ces dernières semaines. L'accueil et l'inclusion des personnes réfugiées, c'est une des raisons qui ont poussé Faustine Caron, prof de yoga, à créer l'association Nour, qui dispense des cours de yoga mixtes à des personnes vulnérables et au grand public. Elle nous explique dans cet épisode comment le yoga peut être un vecteur de solidarité et de lien social, mais aussi ce que ça change d'enseigner à des publics en situation de vulnérabilité ou de précarité. Bonne écoute. Bonjour Faustine, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui.
Bonjour Laura.
Est-ce que dans un premier temps, tu peux me parler un petit peu de ta rencontre avec le yoga et de Nour, l'association que tu as créée? Comment est née l'idée de cette association et quel en est le principe?
Bien sûr, donc moi j'ai commencé le yoga en 2013 quand je suis arrivée à Paris. Je suis d'origine nantaise et j'ai fait mes études à Marseille et en Chine. Et quand je suis arrivée à Paris, c'était pour commencer à travailler. Et donc ma première rencontre avec le monde du travail et avec tout le stress, en plus d'être ma première rencontre avec Paris. Et j'ai découvert le yoga à ce moment-là, dans un petit studio du 14e arrondissement où je faisais du Hatha Yoga. Et c'était des cours de yoga très doux, avec beaucoup de pranayama, beaucoup de respiration. Et ça m'a procuré des bienfaits qui étaient que je n'avais jamais touché dans aucune discipline ou aucune autre activité de ma vie. Pourtant, je faisais du sport en compétition quand j'étais petite, mais je n'avais jamais eu accès, je pense, à cette capacité de respiration qui provoquait des effets aussi autant relaxants et apaisants. Donc, c'est assez vite devenu une bouée pour moi, le yoga, pour ma vie à Paris et ma vie professionnelle. À savoir que je commençais ma carrière dans l'industrie du luxe, donc avec pas mal de stress, pas mal de questions de timing et donc de choses à rendre rapidement. Et c'est vrai qu'il y a un tel mal-être que le bien-être est obtenu et décuplé. En tout cas, c'était mon cas. Et donc, j'ai continué à pratiquer quelques années dans ce petit studio et j'ai fait le tour du monde à l'âge de 25 ans pendant un an. Et pendant ce tour du monde, j'ai fait une forme un peu de tour du monde du yoga, c'est-à-dire que dans toutes les villes et les pays dans lesquels j'arrivais, je regardais quel était le studio ou le centre de yoga dans lequel je pouvais pratiquer et je joignais les séances. Et donc ça m'a permis de découvrir tout un tas de yoga, tout un tas de façons de le transmettre, de l'enseigner, donc autant dans la diversité des séquences que dans dans ce qui était proposé, dans l'approche plus ou moins spirituelle selon les pays, etc. Et en rentrant de ce tour du monde d'un an, j'ai souhaité me former au yoga pour aller plus loin. Au début, je n'avais pas du tout en tête d'enseigner. C'était simplement pour moi, pour apprendre davantage sur la philosophie, sur l'anatomie, pouvoir aller plus loin dans ma pratique. Et en parallèle, j'ai recherché un autre studio puisque j'avais déménagé, donc qui n'était pas le petit studio du 14e. Et j'ai été confrontée assez vite à une forme de... Disons que j'étais pas du tout à l'aise dans les studios parisiens. Enfin, j'en ai fait quelques-uns et c'est vrai que je m'y sentais pas bien, pas accueillie. Je trouvais que l'ambiance n'était pas chaleureuse. Du coup, les bénéfices que je ressentais sur mon corps et mon esprit étaient aussi assez limités. Je savais pas vraiment dire pourquoi, parce que je suis plutôt normalement dans une forme de... Enfin, je suis dans une forme de norme, c'est-à-dire que je suis caucasienne... plutôt d'une corpulence normale, disons, plutôt jeune aussi, en tout cas à l'époque. Et c'est vrai que ça m'a choqué de me dire à quel point moi, avec un corps qui pourrait paraître à peu près dans les standards, et une catégorie socio-professionnelle à peu près dans les standards des studios de yoga, ou en tout cas des jeunes à Paris, je ne me sentais pas du tout à l'aise, je ne me sentais pas bien, je me sentais trop grosse, pas assez souple, enfin ça me renvoyait vraiment une image négative. Et je me suis dit à ce moment-là, mais comment font les personnes qui ont pour le coup une différence par rapport à une pseudo-norme? Donc des personnes qui seraient en situation d'obésité ou dans différentes précarités ou même avec des personnes plus âgées ou en difficulté avec des handicaps ou autres. Et à ce moment-là, m'est venue l'idée, donc en même temps que je commençais ma formation d'enseignante, de me dire que si moi j'enseignais, si j'enseignais ou si je transmettais, ça serait tout à fait différemment, que j'avais envie que ça puisse toucher tout le monde, et surtout avec tous les bienfaits que moi j'avais ressentis quand j'avais commencé. Il me semble évident que ces bienfaits ils puissent toucher en priorité ceux qui en ont plus besoin, selon moi en tout cas, puisque le projet Nour est aussi né, enfin, vient aussi du fait que j'ai eu une éducation très tournée sur le social et la solidarité, avec pas mal d'actions autour des personnes réfugiées, des personnes en situation de précarité. Donc j'avais déjà cette sensibilité-là.
Donc oui, tu t'es forcément dit, quand tu as fait ces formations de professeur de yoga, je vais associer les deux, quoi. Si un jour je suis prof, si un jour j'ai un studio, il faut qu'il y ait cette dimension-là aussi.
Tout à fait, exactement. Il faut que ça puisse être ouvert à tous et que les gens se sentent pas mal et se sentent ni jugés, ni mal accueillis, ni pas à leur place, parce que moi, je proposerai en tout cas. Donc, bon, j'avais déjà ça en tête. Et puis, à la fin de ma formation Yoga Teacher 300 heures, j'ai donné un premier cours de yoga, un week-end familial où il y avait donc mes petits cousins qui commençaient à l'âge de 8 ans jusqu'à ma grand-mère de 75 ans, et aussi donc des personnes de tous les âges, de toutes les mobilités dans ma famille, et aussi les mineurs isolés, donc c'est des réfugiés mineurs qui sont non accompagnés, donc qui sont hébergés par mes parents depuis une dizaine d'années, enfin en tout cas ils en hébergent régulièrement. Et donc il y avait aussi ces jeunes qui étaient là. Et c'est vrai que j'ai constaté, enfin, ce cours, je m'en souviendrai toujours, et ça a vraiment été la naissance de Nour. J'ai constaté l'espèce d'osmose, d'effervescence qu'il y a eu entre tous les participants, notamment au moment du Shavasana. C'est vrai qu'au début de la séance, il y avait un peu de rire, tu sais, il y avait un peu de gêne. Et puis bon, et des niveaux différents. Et finalement, ce qui m'a vraiment marqué, c'est ce moment où ils étaient en Shavasana, tous silencieux, tous partis pour voilà, un petit voyage ou une détente. Et le sentiment de paix qu'il y a eu, et de paix, pas juste de paix, tu sais, d'atmosphère paisible, mais vraiment de paix entre eux, même si c'était déjà un groupe qui se connaissait. Mais le lien qu'il y a eu entre chacun, avec tous leurs corps différents, leurs expériences différentes, dans ce moment en fait, de relaxation, ça a été le déclencheur pour moi, pour me dire, ben voilà, c'est ça en fait, Nour, c'est ça, et c'est ça que je veux créer, et je veux pouvoir contribuer à créer ça tous les jours en fait.
Et alors, ça a été long ensuite pour arriver à vraiment faire naître l'association. Elle a vu le jour quand?
Alors, elle a vu le jour en juillet 2019, donc ça fait bientôt 3 ans, elle va bientôt avoir 3 ans, et ça a été assez vite, donc j'ai déposé les statuts en juillet, et j'ai commencé les cours en début septembre au Grand Voisin, donc qui est un tiers-lieu dans le 4, qui était, parce que ça a été démoli, mais qui était un tiers-lieu dans le 14e arrondissement de Paris, et qui accueillait dans ce tiers-lieu, donc des personnes, qui hébergeaient des personnes réfugiées. Il y avait aussi tout un tas d'actions sociales et solidaires, des associations qui étaient implantées sur le lieu, et donc une salle de yoga aussi, yoga bien-être, et moi j'ai donné des cours de yoga là-bas pour un public mixte, donc des personnes issues du grand public au sens large, et aussi des personnes réfugiées, des personnes en situation de précarité, en partenariat avec une association qui s'appelle Culture du Cœur, avec qui on est encore partenaire aujourd'hui. Et donc dans mes cours, j'avais à peu près 50-50 à cette époque, donc 50% de personnes issues du grand public et 50% de personnes dites bénéficiaires de mon action, car pour ces personnes, les cours sont gratuits. Pour le grand public, les cours sont sur prix libre. Donc ça a été la première vraie réalisation, au-delà du premier cours que j'avais donné en famille, la réalisation de Nour, les premiers cours, les premières actions. Et ça a confirmé mon concept, tu vois, parce que ça aurait pu être juste un moment super en famille qui n'aurait pas du tout été pertinent, qui n'aurait pas marché avec des personnes qui ne se connaissaient pas initialement. Et en fait, non, très vite, j'ai pu constater la même chose, que bah, finalement... À chaque fois, moi, avoir se réunir des personnes de tous horizons, des personnes qui ne se seraient pas côtoyées dans un autre contexte, sur le tapis, et les voir en Shavasana, dans le même état, et avec toute l'ouverture que ça crée aussi, le lien que ça peut créer derrière, la capacité à échanger, le lien social, bah ça, voilà, ça a été confirmé dans ces premiers cours au Grand Voisin.
D'accord. Donc oui, ton idée, c'est vraiment de mélanger les publics. Est-ce que c'est toujours le cas dans les cours que propose l'association, ou est-ce qu'il y a certains cours qui sont réservés à certains publics particuliers? Comment ça se passe?
Oui, alors initialement, l'objectif, c'était qu'il y ait toujours cette mixité. En fait, donc l'objectif numéro 1 de l'association, c'est l'inclusion par le yoga, l'inclusion sociale par le yoga, et ce qui veut dire mélanger des publics autour de la pratique du yoga. Dans les faits, tous les cours ne sont pas ouverts à tous, pour la raison principale que, en fait, on donne certains de nos cours et de nos ateliers dans des structures sociales spécialisées, donc qui sont soit des centres de demandeurs d'asile, des centres sociaux ou des centres médico-sociaux. Et dans ces structures, parfois, les travailleurs sociaux ou l'équipe accueillantes ne souhaitent pas, pour des raisons logistiques, de place ou de confiance de leur public, ouvrir à des publics extérieurs. Donc dans ces cas-là, on n'aura que le public bénéficiaire en question. Il y aura moins ce côté inclusion sociale dans le sens diversité des publics. Néanmoins, ça répond au deuxième objectif de l'association qui est de rendre le yoga accessible à tous, faire profiter des bienfaits du yoga à des personnes en situation de vulnérabilité au sens large.
Et justement, quel type de public et de personnes vulnérables ça peut être ? Donc tu parlais de personnes réfugiées, est-ce qu'il y a aussi d'autres publics avec des besoins particuliers ?
Oui, tout à fait. Alors pour nous, les publics en situation de vulnérabilité, donc qui est notre public qu'on adresse au sens large, c'est très divers dans la mesure où la vulnérabilité, elle peut être financière, elle peut être sociale, elle peut être culturelle. Donc la plupart des publics qu'on adresse sont le public exilé, le public précaire, le public en situation de rue, en situation de prostitution, en situation d'addiction, en situation de maladie psychique, de pathologie psychique, mais aussi en situation d'obésité, en situation de violence conjugale et autres. Donc en fait, c'est toutes les personnes qui ne vont pas être adressées par l'offre de yoga actuelle qui est sur le marché, ou en tout cas pas facilement.
Et d'ailleurs, généralement, alors même si j'imagine que c'est très difficile de faire des généralités et que ça dépend beaucoup d'une personne à l'autre, mais avec quelles envies, quelles attentes, ou peut-être aussi quelles a priori tu les vois arriver, ces personnes-là qui n'ont jamais, j'imagine, été dans un cours de yoga traditionnel, du coup, dans un studio.
Oui, effectivement, en fait, c'est assez étonnant parce qu'une grande partie de notre public bénéficiaire, ces personnes ne connaissent pas forcément le yoga et n'ont pas autant d'a priori sur le yoga que pourrait avoir quelqu'un issu du grand public qui en a entendu parler autour de soi et autres, et qui a eu le temps de mettre des étiquettes ou des stéréotypes sur la pratique. Là, assez étonnamment, on a quasiment, enfin, on a une grande partie d'hommes, beaucoup plus que dans le grand public. Et il n'y a pas du tout cette connotation, le yoga c'est féminin, ou en tout cas beaucoup moins. Et la plupart attendent d'être, ont comme idée en arrivant que ça va être un sport qui va les détendre. Pas forcément plus d'attentes ou de préoccupations. Voilà, souvent ils sont pleins de curiosité et et d'envie de découvrir quand ils arrivent. Et ça qui est agréable, c'est qu'ils ne se sont pas forcément mis une idée en tête, et donc ils arrivent en étant complètement ouvert à tout ce qu'on va pouvoir proposer, en fait.
Ouais, mais c'est intéressant, effectivement, d'observer ça. Donc, bien sûr, on va reparler tout à l'heure plus en détail de ce que vous leur proposez concrètement en termes de pratique de yoga. Mais peut-être avant de parler de ça, est-ce que tu peux me dire, toi, si tu sais, si on trouve des choses sur la notion de solidarité ou de lien social dans les textes, dans la philosophie du yoga, est-ce qu'il y a des choses autour de ça qu'on peut, sur lesquelles on peut s'appuyer aussi ?
Alors moi, ce que j'ai en tête par rapport à cette partie solidaire, ou en tout cas don, c'est la partie karma yoga, donc qui est une des formes de yoga. Donc le yoga, ce n'est pas que la partie posturale qu'on pratique principalement en Occident. Dans les textes, c'est aussi beaucoup plus global. Il y a une partie rite, donc avec des rites à observer. Il y a une partie spirituelle, il y a tout un tas d'éléments. C'est aussi très lié à la philosophie indienne et à la... et à l'hindouisme de manière générale. Et donc cette partie karma yoga voudrait dire en sanskrit, peut-être le plus proche, c'est l'action désintéressée. Et l'action désintéressée, ça veut dire pouvoir faire des choses, des activités, des dons de son temps, de son énergie ou de soi, qui n'attendent pas un retour. Donc le karma yoga, c'est pratiqué différemment, encore une fois en Occident ou en Orient. C'est ce qu'on pourrait rapprocher le plus de cette notion de solidarité dans le yoga, à ma connaissance. Après, de ce que j'en ai compris aussi, parce que bien sûr, moi aussi, je reste encore en apprentissage, c'est qu'initialement, il y avait une idée de transmission de maître à élève, et cette transmission, elle n'était pas rétribuée financièrement d'aucune manière. Donc, bon, c'est les liens que je pourrais faire éventuellement. Après, c'est vrai que nous... Bon, il s'avère qu'on fait du yoga parce que c'est moi qui ai fondé l'association, et puis j'avais eu cette expérience avec le yoga, cette découverte du yoga, et toute cette... ma vie a été complètement modifiée quand j'ai rencontré le yoga, et donc j'ai vraiment à cœur de transmettre le yoga. Mais en soi, ça pourrait passer par d'autres approches complémentaires des parcours de soins. Ça pourrait passer, tu vois, par tout un tas d'autres pratiques douces qui auraient les mêmes effets de faire de l'inclusion sociale, de faire rencontrer les personnes et d'accompagner la santé, et autant physique que psychique, des personnes en situation de vulnérabilité.
C'est vrai que en Occident, le yoga, c'est une pratique individuelle qui peut participer au développement personnel, aider à se sentir mieux et qui invite évidemment beaucoup à se centrer sur soi. Donc c'est intéressant de se poser la question aussi de cette idée de voilà, le yoga, ça ne doit pas simplement être une pratique purement égoïste, mais ça doit aussi aider à être mieux avec les autres, à changer éventuellement les choses autour de soi. Bon, ça peut paraître un petit peu naïf ou idéaliste, mais j'imagine que ça, c'est ta vision, quoi, que être mieux, ça a de sens que si ça aide à être mieux avec les autres, peut-être.
Oui, complètement. En fait, moi, effectivement, l'idée philosophique derrière ça, c'est se dire, quand on se sent bien avec soi, on se sent mieux avec les autres, on se sent mieux avec le monde. Et c'était ça aussi l'idée de nous. C'est-à-dire que quand on, à travers le yoga, c'est des moments souvent quand même d'apaisement, de pause dans des vies très diverses selon les publics, mais souvent tumultueuses pour tout le monde. Et on est plus enclin à vivre mieux ensemble quand on partage ces moments de paix avec d'autres personnes, d'autant plus avec des personnes qu'on n'aurait pas l'habitude de côtoyer initialement. L'union, en fait, décrite dans le terme yoga, donc yoga qui veut dire joug en sanskrit, le joug dans le sens le joug qui attache les chevaux, qui relie le ciel et la terre ensuite, les hommes entre eux, l'esprit au corps. Ce joug, il est d'autant plus important, nous, dans notre action, dans le sens où il se joue aussi au niveau du mieux vivre ensemble, de rencontrer son prochain, l'ouverture sur le monde, l'ouverture d'esprit et autres.
Ouais. Et comment tu l'observes, toi, justement, à l'issue de tes cours, quand les participants font plusieurs cours, ou même un seul, d'ailleurs, comment ça se voit à la fin d'un cours ou dans les suites que ça a créé du lien social? Comment ça se manifeste, en fait? Est-ce que les gens derrière, ils retournent chacun chez eux, et puis bon, ils sont contents d'avoir fait ce cours, mais ça ne change pas grand-chose? Ou qu'est-ce qu'ils te disent? Quels sont leurs retours? Qu'est-ce que ça change pour eux?
Alors, il y a deux cas de figure. Le lien social se crée encore plus dans les structures dans lesquelles le public est entre public bénéficiaire. Sans le grand public, c'est ce qu'on observe pour le moment. C'est-à-dire qu'il y a encore plus d'effets sur le lien social et les liens entre les élèves dans les structures dites fermées. Elles ne sont pas fermées, mais en tout cas que le cours n'est pas ouvert à l'extérieur. Même si les personnes ne se connaissaient pas, elles vont être très vite, en fait, dans une forme de communication. Alors c'est marrant, en tant que prof de yoga, on observe aussi, c'est que pendant le cours, c'est beaucoup moins sérieux. C'est-à-dire qu'elles rigolent, les élèves rigolent, les élèves échangent. Ils disent « Ah bah comment on fait ça ?» Ils regardent le voisin « Ah c'est comme ça que toi tu fais, ok bon je fais. » Et en fait, donc il y a déjà plus de liens qui se créent pendant la séance et du coup à la fin c'est aussi facilité. Et ce que nous on voit, tu vois, très concrètement, beaucoup de nos élèves s'échangent leur numéro de téléphone. Ils sont tous sur un groupe WhatsApp lié au cours pour pouvoir poster des informations, rappeler les cours, etc. Et du coup, ils ont assez vite la capacité de s'échanger les numéros. Et certains de nos élèves font des activités ensemble depuis autre que le yoga, depuis qu'ils se sont rencontrés au yoga. Et dans certains de nos cours, on a aussi la possibilité de faire un petit moment de convivialité à la fin du cours où là, on prépare un thé, on s'assoit, on discute, chacune partage comment elle s'est sentie ou bien parle d'autre chose quand elle en a envie. Et donc là, on voit vraiment des liens très forts se créer. Et d'ailleurs, je sais que dans certains cours, une partie de nos élèves viennent presque plus pour le lien social que pour la pratique du yoga, et tant mieux. Moi, j'ai aucune... je veux dire, tant que voilà, un de nos objectifs est rempli et qu'on sent que ça fait du bien, c'est vraiment le principal. Et après, avec le grand public, c'est un petit peu plus particulier, mais c'est tout à fait normal, je pense, et ça reste des sujets de travail pour nous et pour les acteurs sociaux qui font la même chose que nous. C'est réussir à faire, à permettre un échange entre les publics qui va au-delà de bonjour, ça va, tu veux de l'aide, à bientôt, au revoir, et qui serait justement sur les mêmes types d'échanges qu'on peut observer entre les publics, c'est-à-dire peut-être que certains puissent échanger leur numéro de téléphone pour faire des choses ensemble ensuite, pour s'entraider sur des choses. Ça, c'est un petit peu plus difficile. Moi, par rapport à Nour, en fait, il y a quelque chose qui me tenait à cœur, c'était de me dire, si, je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, peut-être des gens autour de toi, ou moi, par exemple, j'ai des grands-parents qui sont pas très ouverts sur le monde, disons, et je me souviendrai toujours de la fois où ils m'ont dit, quand j'étais plus jeune, « Ah non, mais nous, c'est pas pareil, nous, on n'est pas racistes parce qu'on a le prêtre est noir. » Le prêtre de notre paroisse est noir, donc il vient dîner à la maison, on l'accueille avec grand plaisir et on n'est pas raciste. Et je me suis dit, tu vois, bon, c'est terrible, mais il y a certains moments où on ne peut pas combattre le racisme jusqu'à sa racine. Donc déjà, qui s'auto-persuadent qu'eux ne sont pas racistes parce qu'ils côtoient une personne qui est différente d'eux, je me suis dit que ça, c'était déjà gagné, tu vois, et qu'il y avait une petite partie du chemin qui était faite. Il en reste une grosse, je suis d'accord, mais il y a une petite partie du chemin qui est faite. Et donc, dans mon idée, Nour, c'était aussi ça, c'était aussi permettre à des personnes juste de faire des choses ensemble, à côté, sans forcément s'inviter à dîner ou sans forcément aller, voilà, se voir le week-end, mais qui déjà, quand ils ressortent, ils peuvent se dire, ah bah voilà, moi, dans mon cours, il y a des personnes qui sont issues de tout un tas de milieux, et c'est tout à fait OK, et on est tous ensemble face à la pratique, sur le tapis, et on fait tout ce qu'on peut, et on est pareil, en fait, et on n'est pas différent.
Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai lu un truc là-dessus ce week-end, justement, qui disait sur les préjugés, aussi comment ça fonctionnait dans le cerveau, etc., le racisme, les préjugés, et qui disait qu'il y avait des études qui ont montré, hein, effectivement, que partager des activités, comme un match de foot, par exemple, ça contribue évidemment beaucoup à diminuer les préjugés, mais à condition qu'il y ait quand même un minimum d'échange, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, si on joue juste au foot ensemble, bon, voilà, ça aide un peu, mais c'est encore mieux si on est obligé de collaborer pour organiser le match, etc. Ça rejoint ce que tu dis, mais effectivement, c'est déjà un super début. Et après, voilà, réfléchir à d'autres pistes pour nouer ce lien de manière encore plus forte, quoi. Et alors, du coup, si on en revient au concret, toi, qu'est-ce que ça a changé ? Enfin, est-ce que ça a fait évoluer ta manière d'enseigner, le fait d'accueillir des publics en difficulté, en situation de précarité ? Est-ce que ça te demande d'adapter ton enseignement ? Est-ce que tu fais attention à des choses particulières en sachant que tu t'adresses à des gens qui peuvent être fragilisés, qui peuvent avoir vécu des traumatismes importants ? Bon. Ça peut être le cas dans n'importe quel cours, sauf que là, tu le sais d'avance. Qu'est-ce que ça change dans ta façon d'enseigner ? Et est-ce que tu as d'ailleurs été un petit peu formée à ça, ou est-ce que vraiment tu t'es formée sur le tas ?
Alors, je ne me suis pas formée à ça. J'avais un petit peu d'expérience des publics réfugiés par mes parents. Et donc, j'avais quelques notions de base de voilà, comment se comporter au sens large, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas, quelles questions on pose, quelles questions on ne pose pas, qui pourraient paraître du bon sens pour certaines personnes, mais qui ne sont pas forcément évidentes. Mais j'avais pas de formation autre et je me renseigne parce que je suis sensible à cette cause, donc je suis pas mal alimentée en termes d'informations, de contenu sur ces publics, mais voilà, j'avais pas de formation vraiment proprement parlée. J'ai appris pas mal sur le tas et finalement, puis au contact aussi des autres professeurs qui auront rejoint nous, qui ont aussi des sensibilités, des avis sur le sujet qui nous permettent de nous enrichir tous ensemble entre professeurs au quotidien. Et c'est vrai que ce qui a changé dans ma façon d'enseigner, alors quand je suis que avec le public bénéficiaire, j'approche le public par une pratique beaucoup plus douce que ce que je ferais avec le grand public. Déjà pour la première raison qu'il y a souvent une mobilité qui n'est pas la même, avec des corps qui parfois sont plus atteints hein, par différentes, soit des traumatismes, soit des accidents ou d'autres expériences de vie difficiles. Donc je sais que je ne vais pas du tout pouvoir aller dans les mêmes postures et j'amène beaucoup plus de temps sur le souffle pour poser des respirations, en me disant aussi que je sais aussi que la respiration c'est moins évident pour ce public. J'ai aussi souvent une approche plus debout, moins au sol, pour la raison de mobilité et aussi pour des raisons d'ancrage, dans le sens où une partie de ce public ayant vécu des traumatismes peut avoir du mal à s'asseoir pour des raisons de douleur au dos ou aux hanches, selon ce qu'ils ont vécu, et aussi auront du mal à s'allonger, pareil, par rapport à des potentiels traumatismes. Donc je travaille plus debout, plus sur l'ouverture du cœur, la cage thoracique pour poser la respiration, et un peu plus en douceur, en allant déjà sur des prises de conscience du corps, donc tu vois, de pouvoir aller sur des mouvements assez simples, mais se rendre compte, quand les bras bougent, quels effets ça me donne dans les épaules, quel effet j'ai dans le dos, et prendre le temps de se connecter petit à petit au corps. Donc ça, c'est le point principal de ma façon d'enseigner qui a été modifié, pas vraiment, puisque j'ai toujours enseigné finalement à ce public depuis mes débuts en tant que professeur. Par contre, sur mes cours mixtes, c'est toujours un pari, c'est la plus grosse difficulté qu'on rencontre entre profs de yoga, puisque, enfin chez nous en tout cas, c'est que dans une partie de nos cours, on a un public mixte. Donc des personnes qui vont être, par exemple, qui vont faire du yoga depuis 5 ans, qui ont une pratique vinyasa ou ashtanga assez avancée, et des personnes qui n'ont jamais pratiqué, qui ont peut-être un certain âge déjà, sont en difficulté au niveau de la mobilité, et il faut qu'on arrive à faire un cours qui permette à toutes ces personnes de se retrouver. Donc ça, c'est un vrai challenge. On commence à avoir l'habitude de proposer, la plupart du temps, on propose beaucoup de variations. Tu vois, certains de nos élèves travaillent sur chaise quand d'autres sont au sol pour pouvoir aller dans les mêmes énergies des postures, mais toujours avec des variations, un large éventail de variations. Ça fait aussi qu'on a un rythme souvent un petit peu moins soutenu, tu vois, on part pas sur du vinyasa quand on a un cours très mixte comme ça, parce qu'on a besoin de prendre le temps d'installer tout le monde dans sa posture. Et parfois, il arrive aussi qu'on propose, tu vois, à certaines personnes de rester en balasana sur certaines respirations, ou pas forcément balasana quand c'est pas possible, mais au moins assis et faire quelques respirations, ou bien les mettre dans des postures de yin pendant qu'on va sur des enchaînements un peu plus avancés avec une partie du groupe. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Nous, c'est essentiel qu'on réussisse le défi là-dessus pour justement pouvoir continuer à appuyer, à aider, à soutenir cette inclusion qu'on recherche.
Et tu parlais de toi, ta sensibilisation bah, de par ton enfance, etc., à ce qu'il faut dire, pas dire, est-ce qu'il y a des choses à éviter, des questions à éviter. Est-ce que dans les consignes, le vocabulaire aussi que tu utilises, tu sais qu'avec les publics plus vulnérables, il y a des choses à éviter?
Alors oui, tout à fait, c'est une très bonne question. D'ailleurs, pour tous les professeurs qui rejoignent Nour et qui vont travailler pour Nour, donc pour l'association, ils ont un premier brief, un petit temps de formation sur l'encadrement de comment on enseigne chez Nour. Il y a d'ailleurs un contrat qui est associé, c'est super important pour nous que ce contrat soit respecté. Pour la première raison, c'est qu'une partie de nos financements nous viennent de l'État, et l'État est exigeant sur ce qu'on transmet, quel objectif on concourt, et c'est tout à fait normal. Et il y a aussi une dimension à prendre en compte, c'est que les publics vulnérables peuvent être en priorité la proie des associations sectaires ou des organisations, voilà, criminosectaires. De ce fait, on doit faire extrêmement attention sur ce qu'on transmet, comment on le transmet, et aussi aux problématiques de transfert potentiel qui peuvent se faire avec les professeurs. Dans notre contrat, la première des choses, c'est qu'on se doit d'enseigner, avoir un enseignement qui est laïque, apolitique et dénué de toute doctrine. Et pour ça, en fait, ce qui peut être un peu frustrant pour certains professeurs, et je l'entends tout à fait, on ne s'attache pas du tout à la partie spirituelle du yoga, on reste essentiellement sur la partie posturale et respiration. Donc il est possible d'amener certaines choses comme voilà, des body scans pendant le shavasana, peut-être un petit peu de visualisation. On dit les postures en français, on peut avoir un peu de sanskrit de temps en temps, mais tant que ça reste vraiment pédagogique. Et voilà, on n'amène pas du tout cette partie spirituelle qui pourrait vraiment être inquiétante pour un public qui est déjà en recherche, qui peut être en recherche de repères, parfois dans un pays qui est nouveau pour eux. Donc surtout, on ne rajoute pas cette couche-là. Et moi, je mets vraiment un point d'honneur à ce que ça soit le plus, encore une fois, à politique et à religieux possible.
Oui, c'est intéressant. Et toi, qu'est-ce que tu observes alors chez ces pratiquants? Déjà, je suppose que la plupart reviennent régulièrement, alors si ça leur plaît, peut-être que d'autres arrêtent d'ailleurs si ça ne leur parle pas. Qu'est-ce que tu observes comme évolution quand tu regardes ces publics au fil des cours? Qu'est-ce que tu as l'impression en tout cas que ça leur apporte concrètement?
La plupart, quand on leur demande, parce que dans l'essentiel de nos cours, on fait toujours un petit tour de tapis à la fin du cours pour savoir comment chacun se sent, ce qu'il a ressenti, s'il a des questions et autres. La plupart des retours qu'on a, c'est que les personnes se sentent détendues, se sentent apaisées, se sentent en dehors de leur vie, en dehors de leurs soucis, qu'ils ont le sentiment d'avoir fait une vraie pause, de se sentir mieux dans leur corps. On a aussi dans les retours un sentiment d'avoir une meilleure forme générale. Certains nous disent aussi qu'ils dorment mieux, qu'ils digèrent mieux, qu'ils se sentent mieux au quotidien, en fait, dans leur vie de tous les jours. Je vois aussi, moi, dans ce que j'observe chez mes élèves, les corps qui se détendent, tu vois, des souffles qui s'installent et qui leur permettent d'aller mieux dans certaines postures. Des personnes qui vont avoir des grosses difficultés dans les hanches, par exemple, qui petit à petit arrivent à ouvrir les hanches, petit à petit s'installent dans le guerrier, ou tu vois, peuvent aller sur Malasana ou des postures comme ça au fur et à mesure. Donc c'est assez gratifiant d'un point de vue d'enseignant, c'est de voir l'évolution assez rapide sur les corps de nos élèves, même les corps qui sont les plus en difficulté initialement. Au-delà de ce qui nous témoigne, on voit vraiment qu'il y a une fluidité qui s'installe assez vite. Et c'est vrai que voilà, nous, la meilleure des récompenses, c'est de les voir revenir, même quand ils ont été en difficulté pendant les premiers cours, de voir que ils lâchent pas, ils continuent, et même si c'est des moments qui sont pas forcément évidents pour eux, parce que ça peut venir réveiller des douleurs ou en tout cas des difficultés corporelles, bah finalement il y a aussi assez de bien-être et ils en tirent assez de bénéfices pour aller au-delà de du travail que ça leur demande, parce que c'est pas rien. Et puis voilà, c'est l'art de voir qu'ils continuent à venir et qui à chaque fois ils sont contents, ils se sentent détendus, ils nous remercient, c'est pour ça qu'on fait ça, je pense.
Oui, c'est chouette. Et est-ce que d'ailleurs, chez certains, ça a vraiment créé une vraie passion? Est-ce que tu sais si après, certaines personnes parfois vont pratiquer ailleurs, voire peut-être se disent, tiens, moi j'aimerais bien me former aussi au yoga. Est-ce que c'est arrivé aussi des cas comme ça?
Alors, j'ai en tête quelques exemples d'élèves qui ont fait, notamment je pense à l'année dernière pendant le confinement, nos cours étaient en ligne quasiment toute l'année dernière de septembre à juin et on avait une dizaine de cours par semaine et je pense à une élève qui a été réfugiée syrienne, qui venait quasiment à tous les cours, on la voyait au moins 5 fois par semaine, elle venait quasiment tous les jours et elle a été complètement accro, c'était vraiment super à voir. Elle a énormément progressé et puis elle disait qu'elle ne pouvait plus s'en passer, tellement c'était important pour elle au quotidien. On a aussi des élèves qui ont une belle pratique et je pense à une de nos élèves notamment à qui on a proposé de l'accompagner dans une formation de professeur si elle le souhaite, donc une élève réfugiée également. C'est un petit peu tôt pour nous pour dire parce qu'en fait ça fait qu'un an qu'on est vraiment revenu en présentiel, enfin depuis septembre, donc on n'a pas encore ce recul qui va nous permettre de voir les suites, mais on est en train de réfléchir à un projet chez Nour pour peut-être monter une école de formation pour nos élèves qui souhaiteraient eux aussi enseigner ou voilà, aller plus loin dans la pratique.
C'est une belle idée, effectivement. Est-ce que tu peux nous donner des pistes, peut-être, pour celles et ceux qui aimeraient pratiquer de manière plus solidaire, qui pratiquent déjà le yoga, mais qui, par exemple, aimeraient venir chez Nour pour pouvoir. Parce que j'imagine que c'est comme ça aussi. Donc, tu me disais qu'il y avait des subventions par l'État, mais si vous êtes aussi financé par les dons que donnent les participants qui viennent aux cours libres, c'est ça?
C'est ça, tout à fait, exactement. Donc on a 3 sources de financement. On a des financements donc un petit peu par les appels à projets qu'on remporte, liés souvent à l'État, à la collectivité, à la mairie ou bien à des fondations privées. On a tous les dons que les personnes peuvent faire quand elles viennent participer à un cours, puisque nos prix sont libres. Et donc voilà, toutes ces ressources-là, ça nous permet de continuer à développer notre mission sociale. Et on a aussi, pour finir, les structures sociales qui nous font intervenir chez elles, qui, elles, contribuent aux interventions, aux cours de yoga. Donc, c'est principalement nos 3 sources de financement.
Et en tant que pratiquant, oui, comment on peut, où est-ce que c'est uniquement sur Paris, c'est dans toute la région parisienne, où est-ce que ça se passe vos cours, comment on peut avoir des infos là-dessus?
Alors, tous nos cours sont visibles sur notre site internet, nour-du-6-yoga.com, où là, on a le planning qui est à jour et donc tous les participants peuvent s'inscrire. N'importe quel élève peut s'inscrire au cours de son choix quand il veut, c'est sans engagement. Il s'inscrit voilà, jusqu'à la dernière minute quand il veut pour le créneau qui lui convient et il fait une participation libre, là aussi de son choix. Il y a des cours sur Paris, il y a des cours à Pantin également, des cours à Saint-Denis. Et pour le moment, dans les cours qui sont ouverts au grand public, c'est tout ce qu'on a. On a aussi d'autres cours dans les structures en province, mais ceux-là ne sont pas encore ouverts au grand public. Après, on est dans une phase de fort développement, donc je pense qu'il va y avoir d'autres cours probablement en province qui vont pouvoir s'ouvrir assez prochainement. Et c'est vrai que la meilleure manière de nous soutenir, c'est de venir participer à nos cours en tant qu'élève pour y profiter d'un temps de relaxation, un temps de pratique pour soi et en même temps à faire vivre notre mission sociale.
Et est-ce qu'il y a d'autres initiatives, toi, que tu connaîtrais, soit en région parisienne, soit ailleurs en France, dont tu aimerais parler? Parce que je sais, par exemple, qu'il existe des cours suspendus sur le même principe que les cafés suspendus. J'ai vu ça. C'est-à-dire que tu as la possibilité de payer, en fait, pour offrir un cours de yoga, à un inconnu. Par exemple, quand tu achètes ta carte de cours, tu peux donner une unité ou régler un cours à 10 € qui sera offert à une personne qui a peu de revenus. J'avais vu ça chez Serendipity Yoga Pilates à Toulouse. Mais bon, j'imagine qu'il en existe ailleurs. Est-ce que toi, tu as connaissance d'initiatives de ce genre?
Alors assez peu sur le marché en France. En fait, nous aussi, on avait commencé l'année dernière avec ce concept justement. Enfin, on avait testé le concept de yoga suspendu. On offrait la possibilité à chacun de nos élèves de payer un cours en plus pour une personne. Et c'est à ce moment-là qu'on avait des tarifs fixes. Donc en fait, on a essayé ce modèle. C'était 10 € le cours ou bien 20 € si la personne souhaitait aussi donner un cours à une personne qu'elle ne connaissait pas, qui serait dans notre public bénéficiaire. Ça n'a pas vraiment fonctionné. La plupart des élèves prenaient juste leur cours.
D'accord, ouais, peut-être c'était peut-être trop abstrait dans la tête des gens, ils voyaient pas directement le bénéfice pour la personne en fait. Enfin.
C'est ça, c'est le constat qu'on s'est fait aussi de se dire bah, finalement, de ne pas forcément savoir à qui ça va, comprendre exactement, tu vois, l'impact. Et puis pour nous, c'était aussi difficile d'un point de vue logistique de se dire, alors attends, un tel a donné tel cours, ça veut dire qu'on demande à quelle personne bénéficiaire de venir. Tu vois, ça crée quelque chose d'un petit peu inflexible qui n'était pas forcément évident. Donc on a arrêté le côté suspendu et on reste voilà, sur une donation, un prix libre qui nous paraît plus cohérent et puis c'est plus facile pour nous aussi en interne. Et du coup, j'ai pas. Alors. On a beaucoup de partenaires, on travaille qu'avec des partenaires hein, du tissu social, associatif et solidaire. Et donc, je peux parler d'un de nos partenaires historiques, ou en tout cas depuis le début de notre association, qui fait des choses similaires à nous, qui s'appelle Kaboubou, qui est une association d'inclusion par le sport, et qui donc propose des cours de sport. Alors, il y a tous les sports, ils font quasiment tous les sports à Paris et à Lyon, à destination des personnes réfugiées et du grand public. Et donc, dans leurs cours, il va y avoir de la piscine, de la boxe, du running, du tennis et autres. Il y a vraiment les deux publics, et donc là aussi avec un objectif d'inclusion sociale. Après, au niveau yoga, je sais qu'il existe quelques initiatives locales, avec certaines personnes qui ouvrent leurs cours à des personnes, à un public vulnérable, de manière plus locale, avec toute la difficulté hein, de nous, tout l'enjeu, hein, c'est d'aller chercher le public, de réussir à se faire se rencontrer les publics, et ça, c'est pas un moindre effort, c'est sûr. Et après, les autres initiatives dites solidaires que je connais dans le secteur du yoga, qu'on connaît, c'est les projets comme Karma Project ou Yoga for a Cause, qui en fait, à travers le financement des cours de yoga par le grand public, utilisent une partie de ces recettes pour contribuer à un projet humanitaire type Action contre la faim, SIDAction, autre, qui reverse en fait à d'autres associations, d'autres projets humanitaires.
D'accord. Bah écoute, je mettrai tout ça de toute façon, tout ce dont on s'est parlé dans la description du podcast pour que les gens puissent trouver les liens facilement. Merci beaucoup Faustine pour cet échange que moi j'ai trouvé très intéressant. Je pense très vite venir pratiquer avec vous, ça me donne très envie en tout cas. Voilà, donc merci beaucoup à toi.
Merci beaucoup. À bientôt.
Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Alors si vous connaissez de chouettes initiatives solidaires autour du yoga, des formations de profs accessibles ou si vous avez des idées pour rendre le yoga plus solidaire et plus inclusif, je vous invite à venir me les confier sur mon compte Insta @yogaenoupodcast et je les partagerai évidemment. À très vite pour un nouvel épisode.